Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.
Bonjour à toutes et à tous, il est 13h, vous écoutez le Théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre radiophonique en direct de Radio Canu tous les vendredis de 13h à 14h. Aujourd'hui, nous proposons une carte blanche à la compagnie Augustine Turpo qui était venue il y a déjà un an. Alors dans le studio avec moi, il y a Samuel Pivot, Louis-Antoine Faure.
Bonjour.
Et Anne-Sophie Ortiz-Balin, bonjour à tous les trois.
Salut.
Bonjour.
À la technique, c'est Thomaline qui nous fera sa chronique en fin d'émission.
Et bonjour à tous.
Donc, je disais que vous étiez déjà venu il y a un an pour nous parler d'un projet que j'intitulerais Les Marches.
Ouais.
Est-ce que, avant de commencer, d'entrer un peu plus dans le vif du sujet, tu peux, Anne-Sophie ou Louis-Antoine, nous présenter un peu...
Alors,
ce projet.
Bah, je me lance. Donc, on est venu il y a à peu près un an, au mois de février, donc un peu plus d'un an, juste avant de partir pour le premier cycle de démarches, ou plus précisément, nous on l'appelle le projet des peurs sociales et des peurs intimes, puisque c'est la thématique qu'on a choisie, qu'on a travaillée depuis 7 ans avec Louis-Antoine, par le biais de la compagnie Augustine Turpo, donc. Donc ça a été cette année de réflexion sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, notre société se morcelle et crée des tensions à peu près à tous les niveaux, social, politique, économique, enfin absolument partout. Et notre étude, elle se base effectivement sur les craintes et les défiances qu'on a de manière intime et comment est-ce que elles se projettent sur la société ou inversement, comment des peurs sociales vont rentrer dans ton intimité et te parasiter, te polluer. Voilà, donc on a décidé de partir 8 jours par saison climatique, donc on est parti au printemps 2015, sur un premier itinéraire qui se trouve sur le premier territoire qu'on découvre, qui est donc la Drôme. Notre itinéraire commence à Valence, l'étape suivante c'est Chabeuil, ensuite Cray, Saillant, Saint-Julien-en-Quin, dit sous l'Auriol, et on termine le dernier jour par Valence, on termine par Jouer. Donc les journées s'organisent de telle manière, le matin, donc on arrive à Valence, avec entre 4 et 8 artistes, ça dépend des saisons. On part en chasse, entre guillemets, en chasse à l'interview. On rencontre des personnes dans la rue ou des personnes qu'on rencontre au quartier général, qui est très souvent le bar, le café d'où on est. Et on questionne les gens, on leur présente le projet. On leur dit que cette interview va nous servir de matière première pour les improvisations qu'on mènera le soir, sous forme théâtrale donc. Et donc on discute comme ça pendant une demi-heure. Parfois on a discuté un peu plus longtemps, mais là ça devient un peu plus complexe pour vraiment tirer une substance quand on est vraiment sur une heure de discussion à bâton rompu avec une personne. Voilà. Donc on essaye plutôt de respecter la demi-heure d'interview. Mm-hmm. Ensuite on se retrouve, les artistes se retrouvent, on mange ensemble, on discute pas des rencontres qu'on a fait. De temps en temps ça arrive, mais ça fait pas vraiment partie du process. Et ensuite on part en marche, donc on est c'est un projet itinérant d'improvisation, on va dire. Et donc on part de Valence, on va jusqu'à Chabeuil à pied, donc il y a à peu près Chabeuil, c'est une petite étape, donc il doit y avoir 15 bornes, je crois. 15 kilomètres, pardon. Et quand on arrive, toutes les personnes qu'on croise, on leur présente le projet, on leur donne rendez-vous, on les invite les yeux dans les yeux à assister au spectacle qu'on va jouer donc à 19h. Donc pour la marche de printemps et d'été, ça se passe en espace public, parce qu'on trouve que ça a du sens de questionner la peur.
En extérieur, du coup.
En extérieur, ouais. Donc souvent devant les places, place de l'église, place de la mairie, enfin voilà, des lieux communs qu'on est censé traverser et dont on a le droit normalement de traverser sans crainte. Et donc on joue, voilà, à 19h. On improvise, donc ça dépend du nombre d'artistes, mais en moyenne, le spectacle dure entre 30 et 45, 50 minutes. On essaye d'être sur des formats courts parce que on trouve qu'il y a plus d'impact. Et donc, chaque artiste a en charge d'improviser à partir de l'interview qu'il a menée le matin. Et en fait, la période de marche, le temps de la marche permet en fait à chaque artiste de digérer l'interview qu'il a menée, ou les interviews, parce que parfois on a besoin de faire plusieurs interviews pour vraiment trouver un axe de réflexion par rapport à notre thématique. Et donc ce système de marche, dans la marche il y a un côté méditatif qui permet effectivement d'intégrer de s'approprier le discours qu'on va tenir le soir, et donc on crée des personnages. Après la représentation, on est normalement logé par des personnes qu'on a rencontrées dès qu'on est arrivé sur l'étape. À chaque fois qu'on présente le projet aux personnes, on leur dit aussi qu'on est dans une recherche de... En fait, on cherche aussi à sortir de la zone de confort qu'on a depuis qu'on est gamin, de savoir où on dort, ce qu'on mange, qui on rencontre. Et du coup, voilà, on est logé chez l'habitant. Et on fait ça comme ça pendant 8 jours. Et donc on a terminé notre premier cycle puisqu'on a fait les 4 saisons, on est parti donc printemps, été, automne et hiver. Et voilà.
Donc si j'ai bien compris dans le principe, les personnes que vous avez rencontrées à Valence, c'est à l'étape suivante, ouais, que vous avez proposé les personnages de ces personnes-là.
C'est ça. Mmh. Ouais. Oui, une espèce de déportation de la parole recueillie.
Voilà, c'est pas les personnes du village où vous êtes qui...
Non, on essaie de pas semer la zizanie et toute la merde en racontant des personnages sur place et que les gens se reconnaissent. Ouais. C'est arrivé une ou deux fois qu'il y a des gens qui reconnaissent quelqu'un de l'étape d'avant, et du coup en fait ça c'est hyper enquiquinant. Mmh. Du coup quand on sait que c'est... Enfin, moi ça m'embête.
Oui.
Du coup quand on sait que c'est... les villes sont trop proches ou qu'il y a des connexions, au bout d'un moment on finit par le sentir, on fait un pas de côté. Enfin, moi je sais que le personnage que je fais un pas de côté, histoire que ça soit moins reconnaissable.
C'est les affaires d'échelle en fait. Mmh. C'est-à-dire que à Valence, à la rigueur, noyé dans la masse, ça peut passer. Saint-Julien-Aucun où ils sont 150, il faut à tout prix déporter les paroles recueillies parce que c'est plus l'échelle se réduit en fait, plus il y a cette espèce d'ambiance communautaire en fait, et que ça peut, enfin, tu peux facilement mettre le doigt sur des machins. On recueille des paroles hyper intimes. Il y a les gens se livrent, voilà, et il peut y avoir cette espèce de phénomène qu'on a avec un psy qui est que je te dis à toi quelque chose que j'aurais jamais dit à mes compatriotes. Et donc d'un seul coup, sur une toute petite échelle de hameau, déporter comme ça des choses intimes, ça devient crucial parce que la personne peut avoir livré des choses. Voilà, on est très vite sur des trucs générationnels. Le village tient à 3 ou 4 grosses familles, tu vois. Donc voilà. Donc
du coup, c'est une boucle. Alors, vous finissez par Valence, donc de la dernière étape. À Valence,
On joue les personnes de l'Auriol.
Voilà. Et puis, du coup, Valence, du coup, comme c'est une étape qui est plus grosse et qu'on a du coup cette étape derrière nous, on se permet aussi de revenir sur les personnages qui nous ont semblé intéressants par rapport à notre thématique. Après, c'est vrai que sur la construction des personnages, on s'inspire des gens qui nous ont livré du coup leurs pensées, mais il y a une vraie écriture aussi de chaque artiste. Donc il y a vraiment chacun a le devoir de poser un regard artistique sur ce qui lui a été livré. Et du coup voilà, il y a certaines personnes qui sont venues qu'on a interviewées à tel endroit sur l'étape 4 et qui sont venues le lendemain à l'étape 5 pour assister au spectacle, sachant que voilà, on s'était inspiré de leurs propos. Et il y a des personnes qui disent c'est marrant parce que je me reconnais absolument pas. Et on est là, bah oui, heureusement en même temps, parce qu'il y a quand même tout un temps de digestion. Et du coup, l'artiste en fait est censé aussi à un moment donné donner sa vision du monde avec l'appui effectivement de l'interview qu'il a menée. Mais il y a des personnes qui ont dit ah oui, ça me reconnaît, ou ah oui, effectivement, je fais le même boulot. Enfin, t'as gardé soit peut-être ma classe sociale, ma culture ou des choses comme ça. Mais après, c'est vrai que c'est à nous aussi d'adapter.
Oui, c'est une matière qui sert de base, c'est pas une caricature.
C'est un canevas. On n'est pas là du tout sur le... Alors, puisque t'arrives sur ce terrain de la caricature, c'est pas du tout l'objet de ce travail-là. Quand on a commencé nos réflexions sur les peurs, ce qui fait qu'on se retrouve sur le terrain, c'est qu'à un moment donné, nos réflexions, elles s'arrêtaient à ce point-là où tu dis, en fait, on pourra pas avancer bien plus si on se retrouve pas, à un moment donné, à éprouver nos réflexions sur, sur le terrain. C'est ce qui préside au fait qu'on part en itinérance et qui, et donc voilà. Mais après, quelle attitude, adopter une fois qu'on est, sur le terrain? Est-ce qu'on arrive avec l'espèce de hauteur de l'homme de théâtre qui va dépeindre la société, etc.? Et, on se reconnaissait pas trop pour ce truc-là. C'est-à-dire que, l'idée, c'était que tout, quitte à aller interviewer les gens sur sur leurs peurs, leurs craintes, leurs défiances et tout, autant que nous aussi on sorte de nos zones de confort et quelque part arriver avec le statut d'artiste ou d'homme de théâtre ou de femme de théâtre, etc. Bah, ça nous met dans un truc de confort. Donc l'idée, c'était qu'on trouve le moyen un peu mécanique. De se mettre au même niveau que les gens qu'on interview. C'était est-ce qu'on peut trouver un protocole qui nous mette au même niveau, comme ça la rencontre déjà elle est sur un pied d'égalité et quelque part c'est ce qui sous-tend ça, c'est l'idée de se dire que si on se considère en tant qu'artiste travaillant sur le terrain, on n'est pas hors de la société. C'est-à-dire qu'on peut pas arriver avec une espèce de posture qui prend de la hauteur. Ça c'est pour plus tard éventuellement parce qu'on va travailler ces matières-là, mais sur le terrain il y avait l'idée de se dire, bah, on est responsable nous aussi en tant que citoyens, et donc si on doit parler à des gens, si on doit recueillir leurs paroles, faut qu'on se mette au même niveau. D'où l'idée de ces affaires de logement, de demander à être logé, parce que c'est flippant de demander à quelqu'un de se loger, et c'est flippant pour les deux parties. C'est-à-dire que, bah voilà, t'es pas dans une position hyper confortable, et la personne en face, non. Donc après, mais au moins, il y a au moins ce phénomène-là où t'es sur le pied d'égalité de, oui, voilà, le côté artiste qui vient sur le terrain, en fait, il est désamorcé tout de suite dès lors que t'es dans cette position-là de demander.
Oui, puis ça permet de créer du lien en confiance, voilà. Rapidement.
Parce que, ce qui est beau, en fait, c'est que ça, je trouve que ça apprend des deux côtés, ça crée de la beauté des deux côtés. C'est vrai qu'au début, la première fois qu'on est parti, le premier soir, le premier jour, on était flippés. Genre, on se l'avouait, on se le disait en plus. Pas au point où on était flippés, mais on se le disait quand même. Et moi, assez vite, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça marchait.
Ouais.
Que, en fait, plus t'es simple et plus... En fait, moi, ça m'a appris une simplicité. Il y a une façon de dire, par exemple, bah voilà, en fait, on sait pas où on dort, mais j'ai appris une façon de dire ce truc-là où, si les gens ont pas envie de dire je t'héberge, eh ben, ils se sentent pas, juste ils me disent... Ils me disent rien ou disent non, et puis juste, voilà, c'est pas grave, et on s'est rencontrés quand même.
Ouais.
Et pour ce truc-là, c'est ça qui est hyper beau sur ce projet, c'est que justement, on fait pas la même chose que notre public, mais il y a quand même un pied d'égalité, quelque part. C'est pas on arrive et on joue, c'est, ben, de toute façon, on est tellement dans le truc 24h sur 24 non-stop que, on peut pas se la poser en mode salut, on est les artistes, on débarque, oui. Mais il y a vraiment, enfin moi je sens vraiment un pied d'égalité avec les gens qu'on a en face, y compris dans les rapports. Il y a des gens par exemple que j'ai interviewé, qui m'ont transmis des témoignages. Il y a des gens qui te racontent leur vie parce que c'est ce que tu leur demandes. Il y a des gens qui te racontent leur vie parce que ça leur fait du bien. Et puis il y a eu des fois où j'ai senti que j'avais la mission de reporter ce qu'on m'avait dit.
Ouais, c'est ça.
Et du coup ces jours-là, en fait, c'est même plus moi qui joue. Je suis juste là au service de quelqu'un d'autre. Et c'est assez agréable en fait.
Ouais, alors ça c'est vrai qu'il y a tout à l'heure on disait oui, on veut pas faire de clichés, on n'en fait pas, je crois. On est précisément dans je crois qu'on essaye d'enrober tout le projet, enfin l'essence même du projet, je crois, se trouve dans la bienveillance, dans le fait que on se connaît de moins en moins. Il y a un aspect à la fois communautaire qui est très présent. On bosse dans tel milieu, donc ben on va rencontrer que les gens de ce milieu-là. Il y a plus d'espace où les gens se rencontrent vraiment, venant de milieux différents. Avant, je suis pas pro-militaire ou quoi, mais avant il y avait quand même un phénomène avec le service militaire où des hommes se rencontraient, venaient de milieux différents, de classes sociales différentes, de cultures différentes, et quand j'en parle à des gens plus âgés, enfin des hommes plus âgés, voilà, ils te disent bah au final oui, c'est un peu chiant de faire le service militaire ou quoi, mais quand même j'ai rencontré des gens, et il y en a qui ont gardé contact. Et nous, c'est vrai qu'on est maintenant aujourd'hui à des endroits où même, tu vois, les quand t'es à la fac ou quoi, il y a c'est pas toujours facile d'aller rencontrer des gens qui sont dans des études différentes des tiennes. Il y a un truc assez communautariste qui existe. Et ce morcellement de la société, bah voilà. Enfin, en tout cas, ça tient aussi à ça. Quoi.
Il est à tous les niveaux. Ouais. En fait, nous, notre analyse, elle se fait à tous les niveaux. Ça, on n'a pas forcément développé aujourd'hui l'idée. L'idée, en fait, c'est que depuis la Révolution française, le religieux et le temps de travail, c'est en recul permanent. Enfin, donc après, c'est vrai.
Oui, mais avec la loi El Khomri là. Bon.
Mais en termes d'évolution, c'est sans comparaison possible. C'est de toute manière en recul, et c'est de toute manière un fait. Donc à partir de là, c'est précisément pour ça qu'on a aussi des mouvements réactionnaires sur ce temps-là. C'est que notre analyse à travers différentes lectures, c'est de dire en fait le vide laissé par ce recul permanent et du religieux, donc quelque chose de transcendant qui donne un sens à l'existence, et le travail, quelque chose qui t'abrutit complètement, qui fait que tu penses pas, si ça recule, l'espace laissé, comment tu le réinvestis? Et c'est pour moi là où la démocratie a un défaut structurel, c'est que pour le coup, cet espace-là, nous on l'appelle le vertige démocratique, parce que d'un seul coup, dans cet espace-là, tu as une espèce de mise à niveau des idées, et cette mise à niveau des idées, ça peut être tout et n'importe quoi, et ce qui est sûr, c'est que tout le monde est mis au même niveau. C'est-à-dire qu'une idée pertinente va être mise au même niveau qu'une idée complètement conne. Et en fait, la question, elle se joue plus sur la pertinence ou non des idées derrière lesquelles tu peux construire une existence ou quoi. Ça va se faire sur qui a la plus grosse force de promotion de ces idées-là. Et donc, c'est une capitalisation et un marché, c'est quasiment une financiarisation des idées qui est faite et qui occupe cet espace-là qui est laissé vacant par les reculs du religieux et du travail. Et donc, on est dans un supermarché des idées. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être ton club de judo, ça peut être
tu
penses que les routiers sont des privilégiés, et ça crée déjà une communauté. Pensez ça par exemple, les routiers sont des privilégiés. Si tu prends cette idée là, en fait tu peux communautariser là-dessus, tu peux financiariser là-dessus, tu peux te faire le promoteur de cette idée là, etc. Et ça va rentrer en concurrence avec ceux qui pensent que ce sont les plombiers polonais qui sont privilégiés, etc. Et donc tout ça, c'est autant de morcellement possible, mais au sein d'une même personne, au sein d'une intimité. C'est-à-dire que tu peux aller à la messe le dimanche, ça occupe un tiers-temps de ta psyché, si tu veux. Puis derrière ça, tu peux aller à ton club de fleuriste, et puis tes enfants vont au club de judo, et etc. Et donc à chaque fois, toute cette petite chose-là stratifie l'intimité d'une personne, et au sein de ces choses-là, toutes ces idées-là ne cohabitent pas forcément de manière fluide. Et c'est pour nous l'origine des craintes et des défiances, c'est que c'est les tensions d'une intimité qui font que... Et puis derrière ça, on est tous désespérés, on veut avoir des communs avec le mec d'à côté, etc. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y a des peurs que l'on peut partager. C'est très facile de partager la peur du plombier polonais, l'infirmière roumaine, ou de la jungle de Calais, ou ça c'est des choses qui se partagent collectivement, c'est des trouilles partagées, donc peur sociale, mais qui sont la résultante souvent de tensions internes et intimes qui, elles, sont pas forcément exprimées. Et donc, à partir de là, on s'est dit, bon, bah, super, on a une analyse des choses et tout, mais est-ce que ça a une réelle vérité sur... Donc, à partir de là, il faut aller sur le terrain pour se rendre compte de ça.
Et donc, en parlant justement de terrain, donc vous avez choisi de faire des marches en fonction des saisons. J'imagine que c'est pas anodin aussi, et que chaque saison ayant sa particularité, la marche, j'imagine, n'est pas la même.
Ouais. La marche n'est pas la même. Alors il y a c'est un projet qui est très complet, on va dire, puisque du coup il y avait aussi une question qui se pose au niveau des politiques culturelles. Donc on voulait un petit peu questionner ça et mettre les politiques et aussi les cultureux face à des espèces d'aberrations administratives, de difficultés de rencontre. Quand t'es artiste, t'as toujours la barrière du standard, voilà, qui t'est posé. Ah non, monsieur machin est pas là ou madame machin est pas là. Quand tu te déplaces, bah t'es noyé. Je sais pas, quand t'essayes de rencontrer quelqu'un, bah voilà, tu vas pas pouvoir parce qu'il y a 15 autres personnes qui essayent de lui parler. Enfin, toutes ces choses là. Et du coup, on s'est posé la question de la spontanéité. Donc c'est pour ça que pour la marche de printemps et d'été, on est sur l'espace public et surtout on fait aucune communication en amont. Parce que du coup, ça permet à ceux qui sont en marche, aux artistes qui sont en marche, eux de se concentrer sur le boulot qu'ils ont à faire d'intégration d'interview. Et puis il y a toujours une personne, soit Louis-Antoine, soit moi, qui partons en amont avec la voiture. Donc 15 bornes, tu les fais en... en voiture, je sais pas, en 10 minutes, on va dire. Du coup, on arrive forcément 4 heures avant les autres. Et du coup, ça nous laisse tout le temps d'aller faire le pied de grue devant les mairies, devant les... Enfin, on fait même pas vraiment le pied de grue, finalement.
Et
on
de arrive... prendre les gens par surprise,
ouais,
en fait.
On prend les gens par surprise et ça marche assez bien, en fait. Très rapidement, quand tu dis, voilà, j'ai tel projet, machin et tout, je suis là que une heure, donc demain, je suis plus là, donc voilà, la mairie ferme à telle heure, donc faut que je rencontre le maire maintenant, tout de suite. Et les choses se font, parce que, sans le vouloir, parce qu'on n'est pas très agressif, on n'est pas vraiment agressif, mais cette espèce de pression du temps qui est imposée partout, tout le temps, là, du coup, ça marche. Enfin, pour nous, en tout cas, ça marche. Les gens disent, ok, venez, asseyez-vous dans le bureau et tout. Par contre, j'ai que 10 minutes à vous accorder, et puis tu te retrouves à sortir une heure et demie après, parce que le sujet questionne les gens, les intéresse, et voilà, on crée de la curiosité de par notre démarche, où voilà, les gens nous prennent un peu pour des fous, même si très clairement, on n'invente rien du tout. Hein. On est sur le tête de Molière, enfin, on est sur le tête de Tréteau, même si on n'est même pas de Tréteau. Enfin, voilà, on est là pour questionner la société, je crois. Enfin, j'espère qu'on arrive à faire ça, en tout cas à la faire réfléchir sur elle-même. Et du coup, cette question de spontanéité, on la traverse sur le printemps, l'été. L'automne, on voulait investir des citoyens qui, eux, ont la tête dans le guidon tout le temps. Donc, ça va être souvent des propriétaires de cafés, restaurants. On a joué aussi dans un gîte de campagne, de montagne. On a fait quoi d'autre? Des librairies, des choses comme ça. Voilà, donc ça, c'était accueillir un public qui est client d'un espace qui est privé.
T'as pas parlé des températures.
Ouais, attends, j'y viendrai après. Ouais. Là, j'essaye d'axer sur les lieux où on joue. Et puis, du coup, l'hiver, en fait, on crée le dialogue dès le printemps avec chaque organe qu'on peut rencontrer, chaque partenaire. Et on revient pour la marche d'été et pour la marche d'automne. Et en fait, il y a uniquement sur la marche d'hiver où les institutions peuvent s'investir sur le projet. Parce que l'idée, c'est qu'on puisse quand même expérimenter notre protocole comme on l'entend. Donc voilà, mais quand même en laissant tout ouvert, en essayant d'avoir le maximum de partenaires. Et du coup, voilà, sur la marche d'hiver, effectivement, il fait froid l'hiver. Donc autant pour les artistes, ce serait gérable de jouer en extérieur. Bon, ça,
mais pour le public, ça peut être relou.
Mais voilà, c'est surtout pour le public. Donc là, on a créé une tournée vraiment sur la marche d'hiver 2016, en amont, voilà, 3-4 mois avant, où voilà, il fallait se raccorder avec des gens, du coup, organiser les choses.
Non, et puis même au-delà de ça, en fait, rencontrer les gens sur l'espace public, le printemps et l'été, c'est absolument faisable. Ah, plus il fait beau, plus c'est vacances, plus tout le monde est à la cool et plus les gens discutent avec toi. Et l'hiver, les gens passent, et même les gens qui acceptent de s'arrêter, en fait, t'as moins envie d'ouvrir ta porte l'hiver, c'est une psychologique de base, j'en sais rien, mais du coup, c'est bien quand on est dans un lieu fermé, parce que pour le coup, autour du petit verre de vin ou du petit thé d'après, ça permet aux gens d'être au chaud, et quand tu te sens au chaud, t'es plus prêt à dire, viens dormir chez moi, que quand t'es froid dans la rue et que t'as ton sac de course et que tu te sens léger, mon Dieu, en plus, ils veulent dormir chez moi.
Mais après, au niveau institutionnel, l'idée, c'est qu'on se donne un an pour monter une mayonnaise à partir de rien. C'est ça qui n'était pas forcément clair dans le truc. C'est que, ok, les gens, on va les rencontrer, etc. Ok, les interviews. Mais après, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on réserve comme traitement, entre guillemets, aux institutionnels, aux médias, aux gens qui sont censés être des actifs culturels sur le terrain en question. Et on s'est dit, on les prend par surprise et on voit comment ça mord les premières saisons. Et l'idée est de monter une mayonnaise qui aboutisse en hiver avec, je sais pas, des mises à disposition, enfin, quel que soit d'ailleurs ce qu'ils peuvent nous proposer une fois que l'échange est entamé, en fait. Et donc c'est ça le traitement, entre guillemets, qu'on réserve. C'est-à-dire qu'on les met devant une espèce de truc urgent,
de réalité,
et on pète un réflexe très classique de, bah, de des hommes de médias ou des hommes politiques, qui est de, dès la première confrontation, gagner du temps. Mmh. C'est le premier truc qu'ils cherchent à faire, c'est gagner du temps, parce que ils veulent pouvoir se positionner très vite et ne pas faire une connerie ou dire une connerie ou faire un truc qui pourrait les engager trop et puis ils se feraient engueuler par le reste de l'équipe, etc.
Donc, mais ça, c'est pas que la place réflexe, des politiques, hein, c'est la non, place c'est des gens qui ont le pouvoir, en fait.
C'est tout le monde, dès lors qu'il y a une responsabilité. Mmh. Mais pour les médias, c'était gagner du temps. C'est-à-dire qu'en fait, le premier réflexe, c'est mais prenez rendez-vous. Et en fait, dès le départ, on était sur un refus de rendez-vous en disant, mais non, en fait, ce qui va se passer, c'est que nous, on se casse dès demain. Donc, si on n'arrive pas à se parler, là, 10 minutes, il se trouve qu'on revient, à l'été.
Mais on vous dit pas quand.
Et on vous dit pas quand.
Ouais.
Et donc je me repointais dans des bureaux et les personnes me disaient, ah putain merde, c'est eux là. Et en plus, ils sont vraiment revenus. Mm-hmm. Ils m'avaient dit que effectivement, je vous remets, et donc d'un seul coup, on cherche une contenance, un machin. Et c'est rigolo ça pour le coup, c'est fun. Là, il y a du jeu en fait, même d'un point de vue théâtral. Il y a une espèce de méta jeu qui opère, parce que d'un seul coup, bah on est dans une espèce de comédie humaine.
Et les gens sortent un peu de leur rôle aussi, du coup.
Et c'est ça qui est drôle.
Ça, c'est chouette.
Ça les déroute un peu, ils n'ont pas l'habitude.
Ouais.
Bah oui, forcément, parce que tout le protocole d'appréhension qu'ils ont, eux, est pété dès le départ.
Et pour nous aussi, d'ailleurs.
Pour nous aussi. Ouais. C'est-à-dire que nous aussi, ça serait plus confortable de prendre rendez-vous.
Ou
de
plus flippant.
De préparer un discours tout près, etc. C'est plus confortable. Mais là, l'idée, c'est que tout le monde sur ce projet sorte un peu de sa zone de confort, sans forcément se mettre en danger non plus. Mais c'est un peu ça le truc.
Et quelque chose qu'on a observé, c'est au final, plus tu sors de ta zone de confort, plus t'es dans un lâcher-prise. Et du coup, plus les choses sont simples.
Ouais, parce que plus t'es honnête, en fait.
Ouais. Et puis tu vas droit au but.
Tu vas droit au but et en plus, t'attends pas, comme tu sais que t'es dans une zone d'inconfort, t'attends rien de spécial en face, parce que quand t'as préparé ton machin, t'as une attente vraiment précise. Quand tu sais pas comment ça va se passer, bah tu sais pas comment ça va se passer. Du coup, les gens se sentant, j'ai l'impression vraiment que les gens se sentant la possibilité de dire non, ben en fait ils se laissent aussi beaucoup plus la possibilité de dire oui.
Ouais.
Ouais. Et il y a des gens qui, tu sens qu'ils se surprennent eux-mêmes à dire oui sur le coup. Et bon, ben ils l'ont dit, ben c'est comme ça.
Ouais. Que ce soit les politiques ou les gens qui nous accueillent le soir, eux, c'est clair.
Et du coup, par rapport à ça, donc vous revenez forcément 4 fois dans l'année dans les mêmes villes ou villages. Et c'est les mêmes personnes que vous rencontrez, ou il y a vraiment des différences? Vas-y.
Il y a les deux. Ça dépend de qui, en fait. Il y a les gens qu'on interviewe, globalement, il n'y a pas de... On les retrouve pas, mais du coup, il n'y a pas vraiment de différence. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les saisons sur les gens qu'on va interviewer, parce que pour le coup, on a quand même des gens très différents à chaque fois. Ce qui change vraiment, c'est sur les gens qui viennent nous voir jouer. Effectivement, le printemps et l'été, comme c'est tout le monde est dans la rue, la rencontre avec les gens différents est beaucoup plus facile, puisqu'on est tous dans l'espace public, on partage vraiment cet endroit-là. Dès qu'on rentre dans les lieux privés, en fait, c'est des groupes qui sont plus homogènes déjà. Là, on s'en est rendu compte sur le public dans la marche d'hiver, par exemple. C'était un public qui était beaucoup moins diversifié et beaucoup plus un public déjà un peu militant ou déjà un peu culturel ou déjà un peu ceci ou cela. Et du coup, ouais, il y a une vraie différence, mais parce que justement, c'est une réduction de l'espace
De l'échelle.
Ouais. Mais dans les rencontres, c'est pas le cas. Du coup, c'était uniquement dans le public qui vient nous voir. Sauf le soir d'ailleurs où on a joué en rue parce qu'on nous a posé un lapin.
Il y a eu sur la marche d'hiver.
Sur la marche d'hiver, il y a eu une ville où on nous a posé un lapin dans l'endroit où on devait jouer. Du coup, on a joué en rue à l'arrache, comme au printemps et à l'été. Et du coup, pour le coup, c'est le seul soir où en fait les gens qui sont venus nous voir jouer étaient complètement différents des gens des autres soirs.
Ouais, d'accord. C'est intéressant du coup comme constat, ça soulève beaucoup de questions. Je vais me permettre d'avancer un peu, sauf si tu veux rajouter quelque
chose.
Ouais,
juste en fait, je pense que aussi il y a quelque chose qui est par rapport à ta question de base, si c'est les mêmes personnes qu'on rencontre, il y a quelque chose qu'on fait quand même à chaque fois qu'on revient sur une étape, c'est le premier réflexe. C'est d'aller voir les gens qui nous ont hébergés sur la marche d'avant pour maintenir le lien, juste pour dire qu'on sera là et qu'on va jouer et voilà. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'on arrive, enfin plus les marches avancent, enfin plus quand on arrive à la marche d'hiver, du coup ça veut dire qu'on a quand même deux, trois, voire quatre personnes à aller voir par étape en amont dès qu'on arrive pour dire yo, on est là, on repasse et on joue à telle heure, à tel endroit. Et du coup, bah en fait, tu te retrouves. Enfin, il y a un lien qui est très particulier parce que t'es pas sûr de l'amitié, t'es pas non plus juste. Enfin, t'es plus un étranger non plus parce que t'es rentré dans l'intimité de quelqu'un. Elle t'a ouvert sa porte, t'as passé une nuit chez elle, t'as pris une douche chez elle, t'as mangé avec cette personne à sa table. Et du coup, voilà, on est sur un rapport qui est hyper agréable. Mais que j'arrive pas du tout à nommer, quoi. On fait partie de la famille et en même temps on reste étranger et il faut garder quand même cette distance parce que tu vois là sur on a fait du coup 32 spectacles sur un cycle, ça veut dire qu'on a rencontré peut-être en interview on a dû faire 150-200 interviews, on a été logé bah peut-être chez 50 personnes, donc ça veut dire qu'en un an si on garde pas cette barrière, ça veut dire qu'on a 50 nouveaux amis, 50 personnes de la famille et c'est pas gérable après pour nos intimités à nous. Donc voilà, donc ça c'est pas facile à garder cette parce qu'il y a des gens que tu aimes profondément, que tu les sur la rencontre et que t'aimerais aller plus loin, mais c'est hyper important pour nous de rester sur le fait que on est au boulot, on travaille et ouais. Et du coup l'aspect humain évidemment il est clairement au cœur de ce projet, mais il faut qu'on arrive quand même à se protéger entre guillemets de ça.
Moi je sais que par exemple j'ai pris un numéro de téléphone d'un ami, enfin d'un ami que je me suis fait sur la route, mais je l'ai pris le dernier soir de la dernière marche de la saison. Et j'étais super content de le revoir à chaque fois, il venait nous voir régulièrement,
il nous a
vachement suivi. Ouais. Mais ouais, c'était le dernier soir que j'ai pris son numéro et qu'on l'a acté quoi parce que c'était voilà. Maintenant si on se revoit, ce sera plus dans ce cadre-là, ce sera parce qu'on en a envie et qu'on l'a choisi.
D'accord. Ouais, et puis c'était important parce qu'effectivement, je vois de qui tu veux parler, il nous a vraiment suivi depuis le printemps et c'était aussi je pense qu'il y avait ce besoin de se dire on peut se revoir parce que j'ai ton contact, parce que là a priori on est plus censé, enfin, c'était la dernière. Voilà, on était plus censé revenir sur ce territoire.
Voilà. Très bien. Bah, si ça vous ennuie pas, je vais proposer une petite pause musicale et on revient tout de suite après parce qu'on est déjà à une demi-heure d'émission. Ouais. Vous êtes toujours sur le Théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre radiophonique, et nous sommes en compagnie de la compagnie Augustine Turbo. Et vous venez d'entendre
It's a Kid, c'est le groupe dont je fais partie et qui est établi à la Friche Lamartine, là où est établie la compagnie Augustine Turpo.
C'est un népotisme tout ça.
Voilà, il fallait bien mettre de la musique.
Ouais, exactement. Donc la compagnie Augustine Turpo est venue nous parler d'un projet de marche en fonction des saisons, où vous avez fait des rencontres, et je crois que maintenant il sera intéressant qu'on rentre dans le vif du sujet. Et donc, il vous propose une improvisation autour des rencontres qu'ils ont pu faire durant ces marches. Je vous donne la parole.
Ouais, c'est intéressant de savoir de quoi j'ai peur. Je m'étais pas vraiment posé la question jusqu'à présent, je crois. Bah si, j'ai peur des chiens, mais ça c'est, on s'en fout. Enfin, j'ai peur des chiens. J'ai peur des petits chiens, parce que les gros chiens c'est toujours gentil. C'est... En fait, si, ça c'est assez drôle. Mais je pense pas que ça réponde vraiment à la question, c'est plus une anecdote. Mais j'ai peur des petits chiens parce qu'un jour j'étais avec un copain, on marchait dans la rue. Et alors bon, on marchait, tu vois, sur un trottoir pas large, il y avait pas la place de passer à deux, enfin si, vaguement à deux, mais on était pas bien gros, mais il y avait un chien devant nous, alors là, mon pote, bon, on était un peu dans un état, bon. Il a écarté le chien avec le pied, alors le chien lui a sauté dessus, il a mordu à la couille, il voulait pas lâcher. Alors depuis, j'ai peur des petits chiens, voilà. Mais c'est pas vraiment ça, quoi, dont tu me parles, je pense. Non, je crois que j'ai... En fait, si je réfléchis bien, je crois que j'y pense pas parce que j'ai pas peur. J'aurais peur si j'avais des enfants. Mais j'ai pas d'enfant. De quoi tu veux que j'ai peur? Je vais finir par mourir. Ça ira bien, quoi. Enfin, je veux dire, je vais pas me manquer à moi-même. Y a des gens qui ont besoin de racines. Par exemple, l'amitié, c'est un truc, là. Les gens te disent, mais tes amis d'enfance, que tu connais depuis toujours, tes racines profondes dans la terre. Bon, bah, moi, j'ai pas... Tu vois, ici, dans cette ville, j'ai une amie. Sinon, j'en ai... Enfin, si, j'en ai plein, en fait. C'est des amis... Comment te dire? Y a des fois, tu peux, c'est ça, tu peux passer deux heures avec quelqu'un. C'est quelqu'un que tu connais, tu te dis bonjour parce que, voilà, ici, on se connaît tous de tête, machin, le petit milieu, le petit réseau, tu nous reconnais à nos bonnets, à nos bracelets, un lien autour du poignet, mais tu peux passer deux heures avec quelqu'un et ces deux heures-là, c'est une vraie amitié. C'est-à-dire que tu construis quelque chose sur ces deux heures-là. Et puis tu le recroises trois jours plus tard et tu vas faire tes courses, lui va à son cours de yoga ou de je sais pas quoi. Bon, tu te dis bonjour parce que tu te salues toujours, mais c'était ces deux heures-là qui comptaient. T'as pas besoin de capitaliser sur l'amitié. Tu vois ce que je veux dire? Y a pas besoin de racines. C'est vivre le moment, quoi. Tu regardes le ciel ici. Regarde le ciel ici. Regarde les montagnes que t'as en fond. Ça suffit pour être reposé. Si j'avais des enfants, j'aurais peut-être peur, ouais, parce que... Tout le monde te parle de terrorisme. Ah, terroriste. Ah, y a encore des morts. Mort à Paris, mort ici, mort où là. Mais... C'est un risque qui est beaucoup plus... Il y a beaucoup moins de morts du terrorisme, et puis on l'a créé, mais ça c'est une autre question, mais on l'a créé ce risque-là, il y a beaucoup moins de morts du terrorisme que d'accidents de la route, par exemple. Si j'avais des enfants, j'aurais peur, mais j'aurais pas peur des bombes. J'aurais pas peur des tarés là qui vivent leur adolescence en se faisant sauter, comme des cons, mais c'est triste pour eux, mais j'aurais plus peur des grands trucs structurels. Le chômage et l'environnement, c'est beaucoup plus flippant. Enfin, je veux dire, l'environnement, c'est sur des millénaires. Les terroristes, c'est quoi? C'est une génération. Si on prend le problème à bras le corps, il y aura une génération de tarés, et puis après, on l'a réglé, ce truc-là. L'environnement, c'est beaucoup plus long terme. Le chômage, c'est à beaucoup plus long terme, parce que c'est... L'intégration, tu peux y bosser plus facilement, plus vite que sur le problème structurel du capitalisme. Alors, ça serait flippant, mais comme j'ai pas les racines dont tout le monde parle et que tout le monde veut avoir, mais du coup j'ai mes branches, elles sont juste à moi, j'ai pas de fruits qui vont tomber, dont les pépins vont faire germer d'autres graines. Enfin, peut-être, je sais pas, peut-être que je m'en rends pas compte, mais du coup j'ai pas peur pour l'avenir de mes fruits. En fait, je regarde les montagnes. J'ai tout ce que j'ai à transmettre, c'est dans le moment présent, mais j'ai pas la pression d'avoir un héritage à transmettre. Je donne ce que j'ai à donner et ce que les gens peuvent recevoir sur le moment. Mais j'ai pas... Je laisserai la trace que je laisserai. Si je me disperse, je me disperserai. J'aurai vécu. J'ai peut-être pas peur parce que j'ai rien à J'ai rien à donner d'autre que ce que je donne sur le moment. C'est peut-être l'avenir, la peur, et j'ai peut-être pas... Je vais peut-être trop au présent, moi. C'est peut-être ça. Si j'avais des gamins, ouais, ça aurait pu être différent. Elle est bien ta question, mais tu me prends en déboté, là, c'est... Faudrait que j'y repense. Ou pas, d'ailleurs. Hein. Peut-être que je vais regarder les montagnes et que je vais plus jamais y penser.
Merci, c'était la voix de Samuel Pivot. Donc ça, c'est une improvisation que tu proposes, donc c'était à partir d'une rencontre.
C'est à partir de plusieurs rencontres.
D'accord.
En fait, on essaie de... Plus ça va, plus on essaie de prendre ce qui nous parle le plus chez quelqu'un, puis chez quelqu'un d'autre, ce qui forcément nous fait écho chez nous le plus profondément, et ce qui résonne le plus. Du coup, ouais, plus ça... Il y a des fois, je rencontre quelqu'un, et puis ce quelqu'un-là est tellement théâtral, précisément juste lui, ou quelqu'un qui a vraiment un message à faire passer, que du coup, ça m'arrive de faire des retranscriptions d'interviews, de jouer par rapport à des interviews, en restant très proche de la personne que j'ai rencontrée. Et puis, il y a des gens où c'est beaucoup plus libre, ouvert, et du coup, je peux prendre un peu de cette personne, un peu de celle-ci, et puis, fatalement, il y a des choses dans ce qu'on me dit qui résonnent plus chez moi, et du coup, c'est plus honnête, et ça marche, je me trouve plus juste si je reparle de l'endroit où là, moi, ça m'a tapé au cœur. Du coup, là, c'était vraiment un mélange de plusieurs personnes, trois principalement.
J'ai reconnu trois.
Trois, et puis à partir de choses qu'on m'a dites aussi, il y avait des choses qu'on m'a pas dites, mais qui en revanche allaient dans le même axe que des choses qu'on m'a dites et qui moi en revanche me parlent. Du coup là c'était vraiment un... Bah, t'as lu Proust, t'as lu Kafka, t'as lu Virginia Woolf et t'as lu Inoue, et ça n'a rien à voir les quatre, et tu te mets à écrire un roman et t'adores les quatre, et du coup ça... Voilà.
En tout cas, c'est vrai que ça donne lieu à quelque chose de... d'une parole, on sent une parole intime, une vibe. Moi, je trouve ça très intéressant, ce que tu viens de nous proposer. Donc, du coup, il y a eu cette marche, donc, ce premier cycle, qui s'est fait dans la Drôme.
Ouais.
La suite du projet, c'est quoi, du coup? Comment ça va se passer? Il va y avoir d'autres marches ailleurs?
C'est la merde.
La suite, elle est compliquée, en fait, à monter. Il y a plusieurs choses qui nous freinent, entre guillemets. La première, c'est que faire de cette matière qu'on a recueillie. Il est clair que sur l'année qu'on vient de passer, on n'a pas du tout eu le temps de se pencher là-dessus, et ne serait-ce que de déterminer une attitude par rapport à ça. Il y a des envies qui se dégagent. L'idée, en fait, les spectacles sur le terrain sont globalement une succession de portraits, fonction du nombre de comédiens. On reste sur une forme très simple, et on a commencé à jouer là-dessus en se disant bah tiens, tel personnage, notamment sur les étapes de fin de parcours, on commence à avoir une espèce de petit patchwork de personnages, et on se dit bah tiens, celui-là il répond bien à celui-là sur tel axe par exemple. On a fait une fois un spectacle où toute la problématique liée à la peur de l'accès aux soins par exemple était très présente. Et on avait plusieurs personnages, donc des gens qui étaient soit des responsables d'associations à l'accès aux soins, soit des personnes malades, soit des retraités. Et sur une réalité de campagne, l'accès aux soins quand t'es retraité et que tu viens d'un petit village, bah il y a des craintes. Et donc là, par exemple, on avait tout un truc. Et donc on se dit...
Ou le chômage, par exemple, aussi. Parce qu'après, ça dépend.
Voilà,
il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que le...
Il faut que je finisse là-dessus. Et donc, il y a l'idée de se dire, bah, là, il y a un potentiel de jeu qui peut aller plus loin. C'est-à-dire que, et on se pose ces questions-là, et on n'a pas pu, matériellement, en fait, se regrouper, se dire, bah, tiens, est-ce que on peut pas, exploser un peu les impros? Ce que vient de faire Samuel en faisant un mix déjà de personnages, donc individuellement le comédien peut se faire son propre mix, mais de là on peut aussi mixer quelque chose de plus vaste et commencer à trouver des arcs narratifs, des communs entre personnages, des choses comme ça, et commencer à trouver des dramatiques un peu plus larges que la dramatique intime de chaque personnage recueilli sur le terrain. Vas-y Anso.
Juste, oui, ça c'est un truc qu'on n'a pas dit. Ce premier itinéraire, on l'a choisi parce que on passe par des villes. Enfin, Valence, du coup, qui est quand même une grosse ville. On va passer par des cités dortoirs, des lieux de passage uniquement, où effectivement les gens habitent par exemple à Chabeuil ou à L'Oriole, et ils vont aller travailler à Valence. Par un village, vraiment, par un hameau où il y a effectivement 150 habitants, par une sous-préfecture qui est dit, par un village historique et médiéval, donc très touristique. Enfin voilà, on voulait vraiment essayer de... On n'est pas axé que sur un travail rural. Parce que là, effectivement, on parle souvent de village ou quoi, mais parce que c'est vrai que nous, dans nos têtes, finalement, les gens qu'on rencontre, ça crée un petit village. Mais en fait, non, l'idée, c'était quand même d'avoir un urbanisme très différent et du coup une population différente, de la culture qui est différente, des pensées qui sont différentes. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus.
Ok, et puis donc l'autre grande question, c'est comment on finance ça dans le temps, oui, dans la coup, parce que là on a fait une année test, une espèce d'année pilote, etc. Et donc là, il y a tout cette question liée au financement qui consisterait déjà à ce que chaque participant à ce projet-là soit payé en bonne et due forme. Mais il y a aussi ce truc-là qui est que l'argent sur le terrain facilite trop les choses. Et si on veut maintenir en fait ce point de friction où les gens ont peur, on leur demande un logement gratuit, etc., il faut que l'argent disparaisse en fait du terrain. Et en fait, ça pose des problèmes d'accompagnement aux différents partenaires potentiels qu'on pourrait avoir, qui est de comment on peut financer une compagnie qui déjà n'est pas assujettie à un lieu précis, etc., et comment faire en sorte qu'elle puisse se balader sur un terrain. Est-ce qu'on met en branle des communautés de communes? Y a-t-il des communautés de communes déjà, ne serait-ce que sur le terrain qu'on a attaqué entre guillemets? Voilà, il y a énormément de questionnements qui sont relatifs à ça. Comment faire en sorte que l'argent arrive en amont et s'arrête en fait au niveau de la compagnie, mais qu'une fois qu'on est sur le terrain, il n'est plus question d'argent. Et donc comment on peut péter cette espèce de mécanique de le spectacle induit une billetterie, etc. Voilà, au niveau bêtement assurantiel aussi. Est-ce qu'il y a des déclarations uniques d'embauche pour chaque date? Comment ça peut se goupiller dans un cadre légal. Donc là, il y a un jeu purement en termes de jeu qui est, là, on est sur des vides juridiques, on est sur sur des choses. Donc, qu'est-ce qu'on peut créer avec nos différents partenaires de neuf? Parce que ça sera forcément neuf. Donc, que sont-ils prêts à mettre en œuvre? Comment nous on peut s'adapter et ne pas travestir tout le protocole qu'on a mis en route? Parce que l'argent, en fait, c'est ce qui pète complètement la mécanique entre guillemets qu'on a mis en place. Donc il faut qu'on trouve une articulation. Et on rêvait de faire toute cette réflexion liée aux finances cette année. C'est pas possible. On est tous travailleurs ailleurs, etc. Et donc, on se pose la question de se dire, OK, donc ça, c'était une année test, une année pilote. On a beaucoup de matière, on a beaucoup de choses. On peut mettre en forme les choses et aller démarcher. On sait pas encore vraiment. On a des pistes quand même, mais en gros, tenter de faire une espèce de montage qui permettrait la reprise l'année prochaine de ce protocole-là.
Okay. Donc en gros, on part pas en marche de printemps, même si on s'était dit, allez, on le fait.
Avec grande tristesse.
Ouais, parce que c'est hyper frustrant, en fait. On a lancé le processus et vraiment, il y a un truc aussi qu'on n'a pas abordé, mais la question de la marche, c'est la question de ces 8 jours par saison climatique.
La question des saisons.
Ouais, ça imprime en fait sur le corps vraiment. Il y a une nécessité. Par exemple, Samuel a pas pu venir sur une marche,
d'automne. C'était bizarre.
Voilà. Il en était malade.
Et ouais. En plus, c'était à Paris, donc c'est vrai que c'est dans un autre contexte vraiment très différent. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui s'imprime dans le corps et dans la réflexion aussi, dans cette capacité à avoir de la matière et à créer chaque jour comme ça pendant 8 jours. Et donc ça va être très dur de couper à ça cette année. Mais on veut pas non plus, même si effectivement on va partir sur des réflexions de pré-production et des choses très joyeuses comme ça, donc j'ai pas du tout envie de faire, mais qu'on va faire.
Il faut
faut qu'on s'attaque à ça, mais c'est vrai que quand on n'a pas les compétences.
Ou les cœurs, camarades.
Ouais. Et du coup, on veut quand même maintenir quand même une phase artistique. Donc l'idée, ça va être de chercher à faire au moins 2 sessions de résidence. Pour effectivement arriver au plateau, en tout cas dans un cadre un peu plus théâtral, on va dire, même si je pense que ça restera très très épuré comme on le fait. Et voilà, avoir peut-être 1 semaine, enfin du coup 2 semaines sur 2 résidences avec toute l'équipe artistique qui est composée, d'ailleurs je l'ai pas dit, Eva Grenier, Hélène Grange, Léa Goud, Samuel Pivot, Louis-Antoine Faure, moi-même et Judith Rutkowski. Et...
Bah dans les fidèles, je crois que c'est.
Ouais, c'est ça. Ouais, je crois. Mince, je n'oublie personne.
Faut jamais nommer les gens parce que t'as toujours le risque.
Oui, et moi-même Anne-Sophie Ortiz-Balin. Oui, Eva, je l'ai dit en premier.
Jamais ne nommer les gens.
Donc voilà, et du coup, on espère voilà trouver deux sessions pour qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on travaille voilà sur tous ces interviews qu'on a menées. Et puis du coup, finaliser une ou deux formes. Je pense qu'on partira au moins sur deux formes, parce qu'on a beaucoup de matière. Et du coup, sur la marche d'hiver 2017, donc, repartir quand même en itinérance sur notre même territoire qu'on a déjà bien abordé cette année, avec voilà, ces deux formes-là. Avec, du coup, aussi, bah, quand même, sur toute l'année, là, voilà, on va quand même continuer à bosser, du coup, pour la saison 2017.
Oui, parce qu'il y a, 2018. Y a l'idée de se dire, on n'arrête pas de jouer. C'est quand même, ça serait vraiment trop con
et trop triste
de stopper le théâtre juste pour des affaires de pré-production. Oui. Et puis il y a cette idée de plateau, en fait, de qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que donc au moins on s'interdit pas d'expérimenter là-dessus, et le théâtre perdure quelque part sur le voilà. Et bon, et après le rêve, c'est de condenser ce qu'on aura fait en deux ans en une seule saison. Ça serait le tapas.
Et après, l'idée, c'est quand même de partir sur un projet d'itinérance de 20, 30 ans. Enfin, on aimerait, dans un grand délire mégalo, faire une cartographie des peurs de la France, quoi.
Donc, c'est intéressant,
Oui, ouais, c'est intéressant, mais y arriverons-nous, je ne sais pas.
Et un jour, il y aura le DVD qui sortira.
De 90 heures.
Eh bien, en tout cas, voilà, bon, il est déjà moins 10 et nous avons la chronique de Thomaline.
Annoncé.
Mais je doute pas que vous reviendrez à l'occasion dans un an, pour ne pas venir nous parler de la continuité du projet.
Merci la Gamelle et Radio Canu.
Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage pour toutes ces questions de financement.
Merci, Mandine. Et
wesh.
Bon courage. Et merci surtout d'être venu.
Merci à toi.
Et si jamais des personnes qui nous ont entendues ont envie de se renseigner sur la compagnie, est-ce que vous avez un site internet?
Ils tapent www.compagnieaugustineturpo.com, tout attaché, sans majuscule ou quoi. Et oui, il y a Facebook. C'est peut-être le meilleur moyen de trouver rapidement la compagnie, et puis même et d'entrer
Google,
en contact avec l'équipe. Et voilà.
Et alors, est-ce
Turpo,
que vous pouvez...
T-U-R-P-A-U-X. T-U-R-P-A-U-X.
Voilà, merci, c'est Samuel. Pas Tripo, c'est pas...
c'est pas Turbo.
Eh bien, nous allons passer tout de suite à la chronique de Thomaline.
Et bonjour à tous. Cette semaine, j'ai été pour la première fois dans le cadre de ces chroniques au Théâtre du Point du Jour, à l'occasion de la dernière pièce du cycle Philippe Vincent. La pièce s'appelle « Un arabe dans mon miroir » et a été écrite avec Riyad Ghami au Caire durant la période du printemps arabe. C'est avec Estelle Clément Béalem, Anne Ferret, Riyad Ghami, Florence Girardon, Bob Lipman et Philippe Vincent. Donc les chorégraphes, écrivains et metteurs en scène sont sur scène. Il s'agit, pour faire simple, d'une longue liste de témoignages de toutes parts, depuis la guerre d'Algérie à aujourd'hui. Pour ma part, je vais rester sur la partie printemps arabe. Voici donc un arabe dans mon miroir en 3 minutes.
Je suis le surhumain. Je suis 8 674 779 pieds en train de battre les pavés de leur libération. Je suis la place Tahir.
Je suis Mohamed Hosni Moubarak, nous sommes le 10 février 2011 et tout va bien. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent, même s'il y a beaucoup de vendeurs dans les rues aujourd'hui. Ils veulent tous vendre leurs belles oranges et c'est pour ça qu'ils parlent fort. L'enthousiasme égyptien, que la vie est belle!
Je suis Michèle Alliou-Marie, je suis la première femme ministre des Affaires étrangères française et je veux faire honneur à mon président, à mon statut et à mon pays, enfin s'il le vaut bien. J'ai une grande solidarité avec les peuples tunisiens et égyptiens, surtout quand ils s'occupent de mes bagages à l'aéroport et dans les grands hôtels. Et les femmes de là-bas font le ménage des chambres à la perfection. Pas comme ces fainéantes d'africaines. Alors, je veux bien mettre à la disposition des chefs d'État de ces pays le savoir-faire français quant à la gestion des bougnoules. Pour que nous, les vrais citoyens méritants de notre noble pays, puissions continuer à profiter de nos belles vacances. Et c'est ça aussi la diplomatie.
Je suis la vengeance. Je suis la nuit. Je suis le Batman. Et j'ai rien à faire ici.
Mais... Je suis Ali, je suis Kérot. Il n'y a plus d'internet, alors je vais au café, voir si je peux consulter mes mails. Dans la rue, il y a plein de monde qui veut aussi aller au café pour consulter ses mails, et les camions de police ont l'air pressés parce qu'ils roulent tout droit par-dessus nous en même temps. S'ils étaient si pressés, ils auraient mis leur gyrophare pour nous avertir et nous nous serions écartés.
Je suis le soulèvement populaire et nous avons été entendus. Ils ont enfin ouvert une boutique Free à Lyon.
C'était donc un arabe dans mon miroir de Riyad Gami et Philippe Vincent en 3 minutes. La pièce joue encore ce soir à 20h au Théâtre du Point du Jour en français. Et demain samedi à 20h aussi, cette fois-ci dans sa version en arabe littéraire avec l'actrice égyptienne Solafa Ghanem. Merci, en surtitré français donc. Et je tiens de Philippe Vincent et Gwenaël Morin eux-mêmes qu'à l'issue de la représentation de samedi, ces grosses fêtes avec toute l'équipe et buvre et chili con carne pour tout le monde, sachant que la place de spectacle n'est qu'à 5 euros, il y a moyen que ça les vaille comme soirée. Bien à vous, merci à toute l'équipe pour m'avoir aidé dans cette chronique.
C'est un plaisir.
Bon Chili Con Théâtre à tous et bon week-end.
Merci Thomas.
Merci Thomas.
Alors, pendant qu'on en est sous nos actualités théâtrales, est-ce que Samuel, tu vas jouer prochainement, je crois, au Clochard Céleste ?
Alors, je ne vais pas jouer et ce sera une pièce que j'ai écrite.
D'accord.
C'est de l'actualité à moyen terme puisque c'est en mai. C'est le 10, 11 et 13 mai. Une pièce de boulevard politique magique qui s'appelle Grozny Panzani Paradis. Voilà, on a cherché le titre le plus stupide et on l'a trouvé, on est très fiers.
Pardon.
Et c'est un boulevard qui se passe entre la France et le Kurdistan syrien. Et j'ai une copine vieille qui m'a dit « Comment tu peux oser parler de ça en mettant autant de vulgarité ?» Voilà.
D'accord.
Mais j'ai essayé d'être rigolo quand même.
Ça donne envie. Eh ben, on en reparlera à la période du mois de mai, du coup. Avec ton groupe de musique.
Alors peut-être? Moi, mes actuels sont surtout musicales. Itokid est en concert demain au Toy Toy et on fait un doublé la semaine d'après au Café des Capucins et on enchaîne direct avec une clôture de soirée au Troxon, donc le 2 avril.
D'accord.
Voilà. Et ça va rocker grave dans les chaumières.
Ouais, j'ai l'impression au vu d'extrait qu'on a pu entendre.
Ah, Alcy. Alors moi, c'est pas Augustine Turpo, mais je bosse avec d'autres compagnies et notamment le collectif de l'Âtre. Et on jouera au Riz Théâtre, donc à Lyon, le jeudi 7 avril. Mais je ne connais pas l'heure. C'est le sexe sportif. Du coup, c'est la question du sport féminin. Voilà, la place des femmes dans le sport.
Je vous conseille d'y aller. Hélène, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois sur le théâtre de la Gamelle. Voilà. Très bien, et moi je vais vous parler d'un festival qui aura lieu à partir du 31 mars et jusqu'au samedi 2 avril. C'est le festival Compagnie en Résonance qui se passe à la MJC de Saint-Just. Et donc ce sont les compagnies qui sont en résidence à la MJC qui proposent des spectacles dans la salle de spectacle, mais pas que. Donc il y a beaucoup de spectacles jeunes publics. Il y a de la marionnette, il y a de la danse, il y a du clown. Je vous invite à vous renseigner et à y aller parce que c'est vraiment pas cher et que c'est vraiment très très intéressant comme festival. Donc les réservations et les informations, vous pouvez les trouver au 04 72 32 16 33 ou alors sur le site de la MJC. Vous allez dans Google, vous tapez MJC de Saint-Just et il y a un super site. Et vous pouvez aussi leur écrire à mjc@mjcsaintjust.org. Voilà pour cette actualité, pour cette émission d'aujourd'hui avec la compagnie Augustine Turpo. Je rappelle qu'il y avait avec moi Samuel Pivot, Louis-Antoine Faure, Anne-Sophie Ortiz-Balin et à la technique et à la chronique Thomaline.
Et Amandine Vincent à l'animation, évidemment.
Comme d'habitude, on revient la semaine prochaine avec encore plus de théâtre. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end de 3 jours et une bonne semaine.
Ah ouais, bon week-end.
Profitez bien du week-end.
Bisous. Profitez.
Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art nulard, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, ce noble.
Journal vivant, projet politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Hein.
Imiter son silence.